sous scène, magazine de créatures radiophoniques, bonjour. Dans la situation internationale actuelle, d'habitude, j'ouvre toujours avec un thème en rapport avec l'actualité, et là, quand on se retrouve à devoir choisir entre des fous d'odieux qui pendent les homosexuels, des militaires avec un armement hyper sophistiqué, et de l'autre côté, au milieu des civils, le choix est quand même fait. Mais finalement, je m'étais dit, non, je vais juste passer le jingle de la radio. Vous savez, la pub de la radio qui dure, je sais pas moi, qui dure 2 minutes, en me disant, pendant ce temps-là, je prends un éventail parce qu'il fait vachement chaud. Et je me suis souvenu qu'en 2 minutes, eh bien, on produisait en France 40 000 bouteilles en plastique. Ne cherchez pas le rapport avec le fait qu'il fasse vraiment chaud et que l'humain soit en train de déconner. Et que pendant 2 minutes, 40 000 bouteilles, c'est en 1 minute. Et qu'en 2 minutes, eh bien, quelques tonnes de plastique se retrouvent dans les océans. Ça n'a toujours aucun rapport. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, quelques petits, je me souviens. Je ne me souviens plus quand la formule de politesse dans tous les cafés et restaurants est devenue avec plaisir et belle journée quand on sort. Je ne me souviens plus de quand a été la dernière fois où une personne de sexe féminin s'est présentée à moi avec la syntaxe nom, prénom et la mention épouse un tel. Je me souviens que Yves était un fan de Divo et fredonnait Are We Not Men, We Are Divo. Moi aussi d'ailleurs, j'adorais la musique électronique de ces mecs avec des pots de fleurs sur la tête, de l'énergie arvande et des costumes en plastique jaune. Mais moi, je ne cherchais quand même pas à devenir membre de l'église des sous-génies. Je me souviens de toi, tu étais gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Je me souviens que comme des cons, on dit FBI, mais qu'on dit aussi CIA et pas CIA. Je me souviens que Vincent Jarry aimait pimenter son animation de scènes ouvertes de poésie avec des petites questions pour asticoter le public telles que « Vincent mit l'âne dans le pré et 120 dans l'autre. Ça fait combien d'ânes ?» Il reprenait d'ailleurs en cela le titre d'un film de Pierre Zucca de 1976 avec Fabrice Lucchini et Virginie Thévenet. Je me souviens qu'il y avait dans le stock de la radio une dizaine de disques de « Un drame musical instantané » Jean-Jacques Birger, Fabrice Gorgé et Bernard Vité, sous le label Grrr, sorte de bande-son de films muets avec des récitants tels que Lonsdale ou Bohringer. Je les avais d'ailleurs reçus pour la lecture du J'accuse de Zola et de La Tour d'Ahmed Madani par Bohringer dans une barre d'immeuble à Mantes-la-Jolie dans le mois qui précédait la démolition de cette barre d'immeuble. Je me souviens de Espace frontière de l'infini vers laquelle voyage notre vaisseau spatial, sa mission explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies d'autres civilisations et au mépris du danger reculer l'impossible. Et le pire là-dedans, c'est que j'ai jamais vu un épisode de Star Trek, j'en avais rien à balancer. Je me souviens de l'incongruité de la nomination de Georgette Lemaire comme membre du Conseil économique et social à l'initiative de François Mitterrand. Mais finalement, avec le recul, elle avait peut-être plus à dire sur l'économique et le social que des grands patrons de l'industrie. Georgette Lemaire, elle venait de Belleville et elle avait plusieurs fois été menacée d'expulsion de son logement. Je me souviens de « Nos vies valent mieux que leurs profits ». Je me souviens d'avoir réclamé auprès de l'ANDRA. L'ANDRA, c'est l'Agence Nationale pour la Gestion des Déchets Radioactifs, sur recommandation de Perline ou à l'écoute d'une émission de Radio Libertaire, un document qui référençait tous les sites d'enfouissement ou de stockage des déchets radioactifs. Le genre de pavé de 300 pages destiné à te faire flipper et à te couper l'envie de partir en vacances dans certains endroits. Je me souviens que je ne voulais pas qu'on me téléphone pendant l'émission En avant la zizik d'Alain Poulange et Jeanine Marc Peset sur France Inter. Bon, de toute façon, comme les seuls appels téléphoniques que je recevais, c'était ceux de ma mère et de mon père, j'étais sûr qu'ils ne risquaient pas de m'appeler, ils écoutaient aussi. Je me souviens que c'est Gérard Calvi, le comparse musical de Francis Blanche, qui a composé le jingle de France Info. Je me souviens que chaque fois que quelqu'un me parle avec nostalgie, des musiques des années 50, 60, 70, 80, 90, suivant sa génération, en me disant « Ah quand même, hein, c'était mieux à cette époque-là, on savait écrire de belles chansons, c'est pas comme maintenant. » Là, je repense à ma grand-mère, qui avait la larme à l'œil et la même phrase aux lèvres pour évoquer le quadrille des lanciers, forme de quadrille sur lequel elle avait dû danser étant jeune, ou peut-être même rêver de danser avec un ami de sa grande sœur ou un ténébreux jeune gendarme de passage. De nos jours, il n'y a plus qu'au bal de Polytechnique que certains dansent le quadrille des lanciers. C'est vous dire que j'en ai jamais entendu jouer. Mais pour Manzane, c'était quand même ce qu'il y avait de plus beau. Je me souviens de Louis à l'avoine, de Louis Baste, de Gaston Beuvelet. C'est pas vrai, je m'en souviens pas. C'est des noms chopés le long du mur du Père Lachaise, le cimetière, le monument aux morts de la guerre de 14. Eugène Bévenot, c'était peut-être des gens qui avaient connu ma grand-mère, Alexandre Dasque, André Darès, on les a envoyés au front en 1914. Ils sont jamais revenus, il y a juste un nom. Le long du Père Lachaise, Antoine Perronnet, Désiré Perrotin, Léon Sombrin, Salomon Solomon, ceux qui les ont envoyés et qui sont revenus ont des avenues et des boulevards. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques. Normalement, après les « Je me souviens », il y a un morceau pour lequel je désannonce. Mais là, eh ben, c'est Evelyne qui va désannoncer, parce que j'en sais pas beaucoup sur ce morceau. Mais c'est un clin d'œil de Pascal Loquin.
Oui, alors c'est Pascal Loquin qui a une émission sur Radio Libertaire le jeudi, de midi à 14h, si je me souviens bien. Ah, par contre, le titre d'émission, je m'en souviens jamais, parce que ça change souvent. Enfin, c'est juste une chanson, enfin bref. Et donc, Pascal Loquin, elle a été le coach de plusieurs classes d'une école qui s'appelle Les Frères Voisins. Et donc, elle a composé les paroles et la musique, surtout les paroles. Elle les a composées avec les enfants, en fait. Hein, ce sont les enfants qui ont créé les paroles avec Pascal Loquin. Et bien voilà le résultat. Hein. C'est quand même joli. Hein. Sympa, c'est très sympa. Hein. Donc c'est un disque qui n'est pas destiné à la commercialisation, mais qui a été réalisé avec une association qui s'occupe du quartier et avec l'école, les Frères Voisins, voilà, dans le 19e, si je me souviens bien. Donc Pascal Loquin et des enfants de l'école Frères Voisins. Voilà. Zanimos On the Rock. Voilà, c'est pas destiné à être commercialisé, mais ça, je trouve que c'est très joli.
C'est rafraîchissant.
Ouais, c'est rafraîchissant.
Ça gagnerait.
Voilà. Voilà, voilà.
Oui, c'est vrai.
Alors, pour, alors, il fait très chaud, mais enfin bon, c'est pas, c'est banal de le dire, n'est-ce pas? Et donc, aujourd'hui, nous sommes... oh zut, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein. Bon, ben, c'est pas grave. Désolé. C'est comme ça, la parité n'est pas respectée. Mais bon, hein, on s'en fout, finalement. Et donc, on va commencer le programme. Un petit tour de table, juste pour se présenter. Et puis, on commencera. Voilà. Alors, on va commencer par les dames.
Ben oui.
Mesdemoiselles, mesdames. Je sais plus si on doit dire mesdemoiselles, mesdames. Hein, c'est,
Mesdemoiselles.
Mesdemoiselles.
Alors moi, bon. Je m'appelle Marie Mansour et donc je suis comédienne et je joue donc dans la pièce d'Eliane, Parole de femme.
En pied d'immeuble.
En pied d'immeuble.
Bonjour, moi je suis Eliane Levanquem. Et j'ai écrit et pensé et mis en scène Paroles de femmes en pied d'immeuble.
Voilà.
Pierre Marteau, je joue le mythe de Sisyphe d'après Albert Camus, actuellement Les Saillons jusqu'au 30 juin et puis après au Festival d'Avignon.
Voilà.
Bonjour à tous, Anne Delalleux du blog Théâtre Passion.
Voilà. Et donc, bah, et moi, bon, bah, on, et il paraît qu'on me reconnaît à la voix, hein, ouais. Paraît-il. Bon. Voilà. Alors, oui. Puisque tu vas juste dire un petit mot sur le Festival d'Avignon.
Voilà,
nous passerons aux paroles de femmes en pied d'immeuble.
Bien sûr. Alors, j'ai repéré quelques petites choses. Alors, déjà, des personnes que nous avions, que tu avais interviewées, je veux dire ici. Interrogées. Bon. Oui, bon. Par exemple, Rossignol à la langue pourrie qui se jouera au théâtre du Balcon. Les collectionnistes que tu n'as pas vu, moi je l'ai vu et ça se jouera au Théâtre des Gémeaux. Mayola, que nous avions reçue, ma Caroline Darnay,
oui, oui, oui.
Elle jouera au Théâtre des Corsins. Madeleine Béjart, que nous avons vue au Théâtre des Gémeaux ici, elle le jouera
oui,
le à la Luna.
Festival de Seul en Scène, oui, c'était bien.
Très bien,
très
premier festival de Seul en Scène au Théâtre des Gémeaux, c'était très très bien. Bon, j'espère qu'ils vont recommencer l'année prochaine. Et puis La Valise, moi je m'étais bien amusée avec La Valise de Sophie Forte au Théâtre Essayon et elle le donnera au Petit Louvre. Donc voilà, c'est déjà ça pour Avignon. Et donc monsieur donnera... Alors c'est quel théâtre à Avignon?
Ça sera au Théâtre Transversal.
D'accord.
Là où j'ai joué déjà l'année dernière et je le reprends là dans un, sur un plateau un peu plus grand.
D'accord.
Donc ça sera à midi 10
midi...
au Théâtre Transversal, c'est dans le quartier des Halles.
D'accord. Ben c'est très bien. Donc voilà,
oui, c'est
en direct.
Très bien.
Le quartier des Halles, c'est le centre d'Avignon.
Hein. Oui, c'est une chose à voir. Il y a de très beaux restos à côté.
Oui, c'est ça.
Et alors, vite fait, au Lucernaire, pour un peu de légèreté, parce que bon, vu, hein, jusqu'au 27 juillet se donne Un fil à la patte de Georges Feydeau, l'incontournable. Et Léocadia de Jean Anouilh, que nous avions vu et...
J'étais fatiguée.
Et qu'elle était fatiguée, mais moi j'ai bien aimé, il faut dire les choses. Voilà, disons les choses. Et ça se joue, Léocadia, au Lucernaire aussi, comme le fil à la patte, jusqu'au 27 juillet. Ah oui, j'avais oublié. Opéra piécé, qui va se donner aussi à Avignon, et alors, je ne sais plus quand, mais ça va se donner incessamment sous peu. Eh ben oui, je ne l'ai plus. Attends, je
l'ai. Ah,
oui.
Au 4 juillet.
Oui, oui, au 5 juillet. Au théâtre Épicène. Je ne sais pas où ça se trouve. Mais enfin, c'est.
Bon, moi,
et c'est très drôle, l'opéra piécé. Voilà, c'est très musical. C'est mis en scène par Daniel. Non, par son fils, William Mesguich. Donc, je vous invite à retrouver tous ces spectacles si vous descendez, bien sûr, dans le Vaucluse. Et maintenant, Mademoiselle Evelyne, à vous. Merci.
Alors, non, oui, c'est aux paroles de femmes en pied d'immeuble. Alors, mesdemoiselles, ce que je vous propose quand même en préliminaire, hein, en collaboration avec Nicolas, c'est de passer, pour avoir un peu une présentation, des Olympiades. J'ai récupéré un extrait du spectacle que j'ai enregistré. Les Olympiades, c'est une présentation d'une de vos partenaires qui dure 1 minute 07.
Les Olympiades, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un village dans une ville. Oui, oui. De l'extérieur, nous avons un ensemble immobilier homogène, des gratte-ciels à perte de vue. Et au pied des plus hautes tours de Paris, des toits en forme de pagode bouddhiste. Vous savez, avec les bords qui rebiquent. Oui. Voilà. Et les Olympiades, c'est trois groupes. Nous avons les locataires, les propriétaires et les résidents HLM. Mais dans le quartier des Olympiades, tout le monde sait que la tour de Rome, c'est la tour des pauvres.
Voilà, alors, il me semble que c'était une bonne, déjà, présentation de ces femmes, justement, qui se... eh bien, qui parlent... elles sont sur, pas l'esplanade, mais la...
Elles sont sur la dalle des Olympiades, et en fait, elles sont toutes résidentes de la dalle des Olympiades. Donc, on a trois personnages, on a Hawa, on a Kim et on a Malika. Donc Malika, probablement d'origine maghrébine, Hawa d'origine Afrique noire, et Kim d'origine asiatique. Et donc on a aussi Madame Bronche, qui elle, peu importe, mais c'est ce qu'on appelle une EDL, c'est un peu une fonction qui est nouvelle maintenant sur le quartier. C'est comme des éducatrices, on va dire, de quartier, qui mettent en lien les populations avec leurs besoins selon les quartiers, en lien avec les structures théâtrales ou les centres culturels ou autres. Voilà.
Voilà. Alors.
Donc juste pour vous dire que l'extrait que vous avez entendu, c'est donc Madame Bronche, l'EDL, qui explique en fait concrètement ce qui se passe sur la dalle des Olympiades, parce qu'on fantasme un petit peu sur la dalle des Olympiades, tout ce qui se passe, etc. Et là, en fait, elle explique que vraiment, en fait, il y a beaucoup de solitude, et il y a aussi, malheureusement aussi des suicides.
Oui. Voilà. Oui. Oui, effectivement. Mais bon, c'est un spectacle. Moi, je l'ai vu donc avec ma cousine. On l'a vu à la Cité du Refuge, qui se trouve dans le 13e, dans le 13e arrondissement.
Rue Cantagrèle.
Ben, on a l'adresse d'ailleurs.
Je crois que c'est 13.
12 rue Cantagrèle.
12, ouais, 12 rue Cantagrèle.
Et ça, le William Booth.
Oui. Et donc, ces paroles de femmes. Parce que je vous ai écouté à la fin du spectacle, c'est une initiative des jardins partagés.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, pour revenir un tout petit peu sur ce que j'ai dit avant, le texte là que vous avez entendu, ça provient d'un roman, on va dire, d'une sociologue qui a mêlé en même temps sociologie et puis théâtre, enfin on va dire roman, qui s'appelle La Tour. De Douane Buy, dont on a pas mal entendu parler, qui est sorti il y a à peu près un an. Donc en fait, ce texte-là a été fractionné et feuilleté, on va dire, avec des récits, les récits de ces femmes-là qui habitent en pied d'immeuble. Donc, de quelque chose un petit peu, on va dire, morbide à la place, en début, en fait, elles initient un jardin partagé. Et à travers ce jardin partagé, et en fait, c'est toute une vie, en fait, qui reprend. On va dire toute une confiance aussi qui se mêle entre les différents personnages, une solidarité.
Qui favorise en fait les rencontres.
Exactement.
Les rencontres, le partage d'occupations, comme justement partager des jardins et même, j'imagine, autre chose aussi.
Oui, alors comme elles disent, on est seul, mais on est seul ensemble, et ça change tout. C'est aussi des femmes qui, du coup, d'une certaine façon, comme elles plantent les légumes et les fruits, eh ben, finalement, elles contribuent à une certaine économie solidaire. Donc, dans un contexte où, finalement, c'est pas si facile que ça de survivre au quotidien pour certaines catégories, eh bien, c'est aussi une façon pour elles, en fait, de ressusciter comme ça la vie, la vie de voisinage, l'envie. Aussi, et la convivialité, ce dont on a vraiment beaucoup besoin.
Oui, parce que la plupart des personnes qu'on voit dans le spectacle, elles sont toutes issues de ce qu'on appelle, elles sont toutes immigrées, la plupart.
Hein. Ou issues de l'immigration.
Ou de génération, enfin, voilà, de parents ça. Immigrés.
Voilà.
Voilà. Et c'est assez. Alors, moi, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pu voir, parce que je sais qu'il va y avoir plusieurs versions.
Bien sûr.
Parce que ça a un appel aussi pour des d'autres écritures sur d'autres thèmes, avec d'autres paroles de femmes, qui se passeront peut-être à la Cité du Refuge, mais aussi dans les jardins partagés, puisque ça existe pour de vrai, c'est pas uniquement une idée comme ça.
C'est pour de vrai aussi.
Voilà. D'ailleurs, il y a d'autres thèmes hein, qui vont. Bref, il y a d'autres écritures qui sont en cours.
Alors, je voulais aussi un petit peu préciser, c'est que cette histoire-là de récit tramé, on va dire, presque documentaire, on va dire, aboutit. Ces paroles sont à ce point tramées que ça devient en fait un cœur, presque un coryphée du quotidien. Et là, on prend l'appui d'un texte qui est magnifique, je trouve magnifique, on trouve magnifique, qui s'appelle, qui est un texte de Laurent Godet, je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, un poème.
Oui, oui. Un poème qui s'appelle de sang et de lumière. Et en fait, c'est une façon de magnifier en fait la présence des femmes depuis la nuit des temps, par-delà les continents, par-delà les religions, par-delà les cultures. Donc, une façon de rendre aussi la dignité à toutes ces femmes en général, qui sont aussi colonne vertébrale dans notre société et qui ont une façon aussi de faire la guerre, enfin, on va dire, de se battre contre les stigmates, contre la difficulté à porter la famille, parfois aussi, mais voilà, dans une continuité, dans une progression, peut-être dans quelque chose d'un peu moins frontal, on va dire, quelque chose comme ça. Donc, c'est une façon de partir de quelque chose de très quotidien et pour à monter comme ça un petit peu sur notre verticale et prendre un petit peu de distance et prendre un petit peu d'une respiration commune.
Oui, donc, parce que c'est un spectacle qui fait en plusieurs parties.
Oui.
Donc, la première partie, ce sont des femmes qui parlent, qui se confient. C'est comme des... elles ont besoin de parler, elles racontent un peu leur vie, mais c'est pas... c'est pas de façon trop pathétique. Hein. C'est en plus, elle raconte ça de façon joviale. C'est jovial, hein. La plupart du temps. D'ailleurs, et donc après, il y a une deuxième partie. C'est toutes les comédiennes qui continuent à jouer leur rôle, hein, parce qu'en fait, c'est pas leur rôle dans la vie d'être d'habiter aux Olympiades, mais elles continuent à faire comme si elles habitaient aux Olympiades. Elles viennent devant les spectateurs, spectatrices, et on leur offre du thé, des fraises. C'est très, très convivial.
Mais c'est un peu un théâtre dans le théâtre, en fait.
Voilà.
C'est-à-dire qu'elles croient tellement à leur histoire qu'elles invitent les gens, en fait, à passer le pas et à rentrer dans ce jardin partagé. Du coup, on est dans un espèce de troupe comme ça. On ne sait pas, vous savez, on ne sait pas, c'est des tiroirs dans les tiroirs.
Voilà. Et alors, bon, nous, on y croit. Hein. D'ailleurs, même, il y a une spectatrice qui a demandé, mais donc, vous faites vraiment partie des Olympiades. Et non, pas du tout. Ce sont toutes des comédiennes. Et alors, ensuite, la deuxième partie, c'est là où toutes les comédiennes, il y a une chorégraphie. Elles dansent, elles s'expriment par le corps. Ce ne sont pas des danseuses, mais justement, c'est ça qui me plaît quelque part. C'est qu'on se dit, c'est accessible à tout le monde, même si on n'est pas danseur. Danseuse, on pourrait danser. Et c'est à partir d'un poème de Laurent Godet.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc l'idée, en fait, c'était que, on va dire, Laurent Godet, c'est un poème un peu épicurien. On peut dire que c'est peut-être pas accessible à tout le monde. Et pourtant, en fait, toutes les phrases sont mises dans le corps. De telle sorte qu'en fait, c'est comme si ça se déployait en fait devant le public, et donc il y a des choses qu'on peut percevoir par le mot lui-même, par la musique, parce que c'est accompagné aussi au niveau d'une musique, et en fait c'est la musique de Kurt Weill, Ukali ça s'appelle, et donc en fait on a en fait appel à tous les sens, et ça veut dire que c'est très difficile d'y résister, on va dire, de pas être touché à un moment donné ou à un autre par ce poème qui est dédié à toutes les femmes et donc à tous les hommes.
Alors, est-ce que ça... je voulais vous proposer d'entendre un extrait qui dure 1 minute 36 de paroles de femmes. Ensuite, un de 2 minutes 15 sur le jardin partagé. Et l'extrait final où on entend la musique dont vous parlez et un peu du poème de Laurent Godet. Alors, ça dure 1 à 2, 3 minutes. Et après, je vous laisserai la parole aussi à vous qui êtes venus vous déplacer. On va tous les passer en même temps, comme ça.
Elle a des animaux domestiques, cette petite âme ? Non, pas d'animaux, ma mère a dit.
Bon, bah, je sais qu'en racontant mon histoire comme ça, je peux faire naître la pitié. Mais je mentirais si je disais que j'avais eu une enfance vraiment horrible. C'est... j'ai presque jamais manqué de rien. J'ai toujours eu de quoi manger. Et j'ai toujours eu des habits. J'ai toujours eu des chaussures.
Je lui fais une longue natte. Bon, qui arrive à peu près aller au milieu du dos, quoi. Mais vous savez, moi ça me plaît. Ça me plaît qu'à 70 ans, elle décide de garder les cheveux longs, ma mère. Et d'ailleurs, elle se pose souvent la question, pourquoi les femmes blanches, à la cinquantaine, décident de se couper les cheveux très courts? Bref, c'était un homme dont le visage était connu de tous, mais qui était parfaitement inconnu. Des visages connus et pourtant inconnus de tous, qui disent leur désespoir. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, merci d'être venu nous écouter. C'est trop gentil, voilà.
Nous, on fait pas trop de théâtre d'habitude, alors c'est un moment.
On peut se présenter.
Oui, ah oui, pardon. Alors, moi je m'appelle Caroline, voilà. Enchantée. Oui.
Moi, c'est Lisa.
Oui. Bah, moi, c'est Samantha.
Moi, c'est Cindy.
Voilà.
Donc nous, on s'est rencontrés à une fête de quartier. On se connaissait pas du tout à la base. On s'est rencontrés à la fête de quartier. Et il y avait une réunion et du coup, bah, en fait, on pouvait dire chacun ce qu'on attendait du quartier.
Ouais. Et c'est la première fois du coup qu'on nous demandait vraiment notre avis sur quelque chose qui se passait dans notre quartier.
Parce qu'on n'a pas habitude que rien ne se demander. Ils ne demandent jamais ce qu'on veut.
Et d'ailleurs, au début, bah, personne n'osait parler parce qu'on n'avait pas l'habitude de s'exprimer.
Non, mais on super timide.
On avait honte aussi un peu de dire notre avis, on n'avait pas l'habitude. Du coup, c'était une première. Ouais. Maintenant, on n'a plus honte. Hein. Maintenant, on le dit tout le temps.
Oui. Et du coup, il y a Madame Ponce qui a eu une idée géniale.
Non,
Caroline.
Qui a eu une idée géniale, elle a parlé de.
Le jardin partagé.
Oui, alors le jardin partagé, moi c'est mon rêve d'avoir un jardin dans ma vie. Et donc je me suis dit, un jardin partagé c'est super parce que en fait c'est le début de quelque chose. Hein. Mais c'est, ouais. Voilà, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Voilà, c'est.
Du coup, qui m'a signé à ramener des noyaux durians et elle a réussi à en faire pousser.
Oui, et on a aussi des pierres de basilic et de
Et on a aussi planté des pépins de citron,
et moi j'ai ramené de la bonne terre de la campagne. Et comme engrais, du crottin de cheval.
Ouais,
ça pue un peu, mais ça faisait pas l'unanimité. Et du coup, on a planté, on a semé, on a vu, on venait en fait dès qu'on pouvait dans le jardin.
La colère.
de celle que vous connaissez. Pas de celle que vous chantez.
Bras tendus, visage tourné vers le ciel.
Il y aura de prières que celle que j'invente. Je la prends du fond des âges. Je l'embrasse, lui murmure ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu.
Il y aura de prières que celles que je nomme. La
ça décoiffe, hein. Moi j'aime bien, hein. Non, c'est vraiment un joli spectacle. Bon, évidemment, il y avait pas autant de spectateurs, de spectatrices qu'on aurait voulu, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de la communication, hein. C'est pas toujours facile de, mais en même temps,
en même temps, ça a été une sortie de résidence,
oui.
Donc, du coup, c'était un petit peu pour les partenaires, pour voilà, c'était plutôt ça. Donc là, on espère pour le 4 et le 5. Donc...
Alors justement, il faut l'annoncer, hein, de façon très précise. Oui. Donc, c'est un spectacle qui va avoir lieu. Alors, c'est la même distribution à laquelle j'avais assisté?
Oui, ou c'est la même distribution.
Ah, voilà. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas le nom des...
Oui, dommages. C'est vrai, c'est une erreur.
Ah, oui, c'est même une grosse erreur.
Parce que, excusez-moi, c'est parce qu'effectivement, ça, c'est un premier papier qui sert en fait aux partenaires politiques de la ville. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on se met un petit peu sur leur demande. Et après, effectivement, vous avez raison, Yveline.
Nous mettrons les noms... C'est la deuxième fois que je le demandais. Non, c'est pas ça que... Si je voulais... annoncer le spectacle sur mon blog, par exemple, oui. Ça me plairait de pouvoir mettre les noms des comédiens.
Tout à fait, Evelyne, nous ne manquerons pas de vous les fournir, ces informations, car nous voudrions que vous travailliez dans les meilleures conditions.
Non, mais c'est pas ça, mais c'est pour vous, hein, c'est pas que pour moi.
Tout à fait, ça même pas mon nom, vous
c'est
voyez.
Pas, moi, je fais pas ça pour... pour moi, je fais ça pour vous. Hein.
Bien sûr, Evelyne.
Voilà. Merci. Donc, vous avez prévu donc de... Alors, le mercredi 4 juillet, donc non, la Cité du Refuge.
Pas du tout. Alors là, Evelyne, non, là, on n'est pas
vendredi.
Là, vous êtes contrariée, mais quand même.
Mais non, mais donc, c'est parce que c'est écrit en tout petit VE. Ah, oui. Alors,
oui, donc, c'est vendredi 4 juillet à 18h et samedi 5 juillet à 16h, un lieu qui s'appelle la Cité du Refuge et la Sam William Boff. Et ça se trouve, à 12 rue Cantagrel, dans le 13e, métro Arrêt Bibliothèque François Mitterrand. On va dire que c'est
avec un petit GPS, on
s'y trouve. Un petit verre à l'accueil, n'est-ce pas? Peut-être un petit verre à la fin aussi, en amont et en aval, pour être de bonne humeur. Et juste pour terminer, parce que peut-être je sais qu'il y a du monde qui doit parler, que cet atelier-là ouvre aussi à une atelier d'écriture en direction des résidents du 13e, résidentes et résidents du 13e arrondissement. Cet atelier-là est d'une initiative aussi citoyenne, c'est-à-dire que chaque année, en fait, elle donne un thème elle-même au contenu des ateliers qui se déroulent dans le jardin partagé pour un espace comme ça, urbain, convivial, accessible à tous.
D'accord.
Donc là, c'est du 7 au 10, 11 juillet même, de 17h30 à 19h30, et c'est gratuit.
D'accord. Alors, en fait, il y a déjà eu d'autres thèmes, comme par exemple « Le jour qui a changé ma vie ».
Exactement. Ça a été le thème de l'année dernière, « Le jour qui a changé ma vie ». Et cette année, c'est « Ma vie, mon immeuble, mes amours, et pour ceux qui sont plus sensibles, mes rencontres ».
Ah, d'accord.
ça a été décidé par collectivement aussi.
Et ça, ça fera l'objet donc de spectacles.
Ça, ça fera l'objet en fait d'une restitution dans le cadre d'un festival qui s'appelle Terrasse d'été dans le 13e arrondissement. C'est une façon aussi de donner la parole citoyenne à ces femmes-là, de se faire entendre, de ces hommes aussi, hein, de se faire entendre et puis de participer en fait à la vie locale, d'avoir des choses à dire et de les dire.
Toujours aux Olympiades.
Alors là, on est dans le 13e, parce qu'effectivement, il s'agit d'un projet qui est financé par la politique de la ville, donc ces écritures-là. Mais le spectacle, effectivement, sommes en lien d'un point de vue des subventions, on va dire, et donc de la diffusion. Donc l'idée, c'est que ça se diffuse dans la région parisienne et ailleurs. Parce
d'accord,
que je pense que cette
d'accord.
histoire-là, les Olympiades, il y en a un peu partout.
Oui, oui, non, mais j'imagine. Mais là, c'est comme ça a démarré aux
tout
Olympiades, donc pour l'instant, ça continue.
Oui, oui, on Olympiades. Aime les Olympiades du 13e, ainsi que tous les Vietnamiens, les restaurants vietnamiens qui y a alentour.
Ah oui, d'accord, oui.
Donc,
a... Oui, c'est vrai que, Eliane, tu es eurasienne, d'origine
oui,
vietnamienne.
Oui, tout à fait, oui.
Voilà. Bon, mais peu importe, hein, on ne fait pas des ghettos, hein, on ne dit pas... On est tous parfois un peu mélangés, voilà. Mais c'est vrai qu'on a une communauté, il y a une communauté, enfin un peu d'origine vietnamienne qui défend tes projets.
Voilà, c'est ça, exactement. Et puis donc Malika, elle qui n'est pas du tout vietnamienne, mais elle fait partie du spectacle.
C'est un péché, ça
fait preuve d'une grande ouverture d'esprit, comme vous voyez.
Ouais.
Non, bah oui. Alors, en tout cas, c'est ça qui était beau aussi, c'est que quand on a rencontré donc Eliane sur le projet, c'est vrai que déjà on s'est rendu compte que nous quatre, les quatre comédiennes, on venait justement de pays et de continents différents, en tout cas soit par nos parents ou soit des comédiennes qui arrivaient soit de Chine ou soit de Chine surtout. Et du coup, c'était déjà de le vivre, en fait, on le vivait déjà nous-mêmes, en fait, d'entendre l'histoire d'Eliane, enfin, qu'on a rencontré aussi autour de son projet Saigon Paris.
Ah bah oui, il faudra, voilà. Tu en diras juste un petit mot
oui,
tout à l'heure.
Oui, hein. Très petit mot.
Donc,
bah non, mais...
oui, non, c'était beau déjà de l'avoir raconté son histoire, donc
oui.
Déjà nous, ça nous a... En tout cas, j'ai parlé pour moi, c'est vrai que ça s'est venu toucher aussi certaines choses à l'intérieur. Et ensuite, de rencontrer le public à la Cité du Refuge, c'était aussi de leur donner cette invitation, en fait, de aussi pouvoir raconter leur histoire et de voir ces femmes, justement, qui prennent la parole. Donc Malika, Sophia, j'ai un truc
surtout...
Kim. En fait, elles commencent à parler et à raconter leur histoire. Et du coup, dans le public, on sentait que y avait une envie qui s'installait. Et à la fin du spectacle, c'est vrai que c'était beau de voir que ces personnes, elles avaient envie d'assister à des ateliers d'écriture. Elles avaient même envie de danser, de chanter. Et donc... C'était en tout cas une belle rencontre aussi à la Cité du Refuge, sur toute la semaine, parce qu'on a eu la chance d'être là-bas une semaine.
En résidence.
De pouvoir rencontrer les femmes, les hommes, et aussi qu'ils puissent nous raconter leur histoire, qu'ils puissent s'intéresser à notre projet. Et donc, il y a comme ça des envies qui sont nées.
Ça stimule un peu le... parce qu'il y a des gens qui sont timides, qui n'osent pas forcément s'exprimer. Et le fait de voir qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont timides comme elles,
donc
et
voilà.
Qui le font, elles y vont. Oui, c'est
une émulation, oui.
Oui, voilà. Oui, c'est pas mal. Mais alors, pour les prochaines écritures, ce ne sera pas en 2025, ce sera en 2026, 2027.
Oui, Evelyne, 2020... Ah ben non, non, en fait, 2025, parce que... Alors, très rapidement, Saigon Paris, elle est simple, donc spectacle sur les origines de mon père Viet Kieu, qui parlait pas très bien, pas beaucoup, enfin qui parlait très bien, mais qui parlait pas beaucoup, qu'on a réussi à faire parler par le biais du théâtre, de la musique, de la chanson, etc. À cette occasion, on a joué en fait au Vietnam. Et donc le spectacle a été invité au lycée Marguerite Duras à Saigon.
Ouais.
Et donc j'ai rencontré là la responsable à ce moment-là des affaires culturelles, aussi professeur de chorale, qui a invité le spectacle. Mm-hmm. Et là maintenant elle est à Bruxelles, puisqu'elle fait tous les lycées français de par le monde, enfin elle en fait quelques-uns, et donc elle m'a proposé un projet. Et donc c'est venu toute seule, j'ai pensé à Exil. Donc Exil, alors c'est à partir d'un texte bien sûr, enfin d'un texte, et beaucoup de chansons de l'exil, avec vraiment des auteurs complètement différents, mais Aznavour aussi connu qu'Aznavour, ou bien d'autres qui ne me viennent pas à l'idée là. Et donc c'est l'idée en fait de donner ça à des jeunes, pour voir un petit peu comment il peut s'en emparer, à partir, en essayant ça sur un texte. Et après, je pense que nous, après, on va le reprendre. Enfin, c'est un pré-travail, disons, pour une création future de la compagnie.
D'accord. Voilà. La compagnie Corazon.
De la compagnie Corosa. Là.
Ah, bah,
c'est Corazon, c'est plutôt en espagnol. Hein. C'est Corosa.
Corosol.
Voilà.
D'accord. Eh bien, écoute, Eliane et Malika, je vous remercie beaucoup Marie. D'être venues pour présenter ce spectacle. Donc, on rappelle les dates.
Donc, c'est donc le vendredi 4 juillet à 18h et le samedi 5 juillet à 16h à la Cité du Refuge, 12 rue Cantagrel, dans le 13e. On vous attend. Merci, à bientôt.
Bravo, merci.
Alors, on va essayer de passer l'histoire de Jean-Marie, je suis con.
Je vais vous dire un poème qui est une chanson, en fait. Ouais, c'est une chanson. Je l'ai écrite en chanson et elle est très bonne chanson. Qu'on le soit, qu'on le soit pas. Les grands sont souvent appelés petits cons par des petits qui seront plus tard de grands cons. Les gauchistes sont, pour la droite, de jeunes cons à enfermer. Les fascistes, pour la gauche, de gros cons en liberté. Même parmi les riches, il y a de pauvres cons qui, après leur douche, restent de sales cons. Et s'ils cherchent des repères dans leur généalogie, ce n'est pas une mince affaire. Non, c'est la plus belle des conneries. Qu'on le soit, qu'on ne le soit pas, on est le con de quelqu'un, mais rassuré à chaque fois que l'on trouve plus con que soi. Il y a de sacrés cons qui ont tant besoin pour qu'on les croit cons d'un sceptre à la main. Pas besoin d'être géomètre pour être un vieux con borné, ni champion de tir pour être un jeune con carabiné. Dites à un raciste, t'as une tête de con. Il ne vous croira pas, non, il est bien trop con. Si ce con se sent à l'aise, c'est qu'il sait très bien, au fond, s'il est con comme un pot de fraise, c'est pas marqué sur son front. Qu'on le soit, qu'on le soit pas, on est le con de quelqu'un, et rassuré à chaque fois que l'on trouve plus con que soi. Que ceux qui m'écoutent juste en ce moment n'aient plus aucun doute, je suis con, vraiment. Mais que tous les cons en place, dont on dit qu'ils sont des rois, sachent bien que je m'efface quand je trouve plus con que moi. Qu'on le soit pas, on est le con de quelqu'un, hein. Mais rassuré à chaque fois que l'on trouve plus con que soi.
Voilà, ça c'est un texte de Jean-Marie Blanche. Jean-Marie Blanche qui a quand même quelque chose à voir avec Francis Blanche,
hein,
qui était son fils.
Il y a un peu une filiation.
Oui, il y a une filiation, voilà. Et donc, on va passer au deuxième tour de table avec Pierre Marteau. Et effectivement, si je fais passer ce texte là concernant la connerie humaine,
oui, comment je dois le prendre?
C'est parce que je sais plus. Je crois qu'il y a un sous-titre d'ailleurs. Pierre Marteau, comédien,
oui,
a adapté le mythe de Sisyphe, hein, d'Albert Camus. Et d'ailleurs, il y a un sous-titre d'ailleurs au mythe de Sisyphe, il me semble.
Oui, c'est Essai sur l'absurde.
Essai sur l'absurde.
Oui.
Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la connerie et l'absurde? On peut quand même, on peut le suggérer. Hein, enfin, moi, je ne sais pas, je suis peut-être trop conne.
C'est un gouffre, cette question.
Oui, voilà, c'est ça. Justement, ce que j'ai parce que le mythe de Sisyphe, vous en avez entendu parler, Eliane. Hein?
Bien sûr.
Oui, bon, mais même, moi aussi, j'en avais entendu parler. Et j'aimais bien l'idée, parce que c'est mythologique, hein, le mythe de Sisyphe. Ça existait avant Camus, c'est Camus qui l'a sorti de la mythologie. ça reste un mythe quand même, mais cette image de cet homme comme une fourmi. Parce que finalement, moi, j'ai observé des fourmis, excusez-moi, hein, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais quand même, j'ai regardé des fourmis. Mmh. Et j'ai toujours été sidérée de voir les énormes miettes de pain qu'elles portaient sur leur dos. Bon, enfin, et Sisyphe, c'est ça. Il porte sur son dos un énorme rocher. Et les dieux ont condamné Sisyphe. Alors, je ne sais pas ce qu'il a fait, hein, Sisyphe. Il a fait une connerie, je ne sais pas. Mais les dieux l'ont condamné à porter ce rocher et puis à le faire rouler, à le faire glisser. Et une fois qu'il est à terre, il faut qu'il reprenne le rocher sur son dos et qu'il recommence comme ça à l'infini. C'est horrible. Enfin, c'est horrible.
Oui, moi, je ne pourrais pas.
Moi non plus. Personne ne pourrait ça. Mais bon, voilà, c'est un mythe. Et Albert Camus, qui n'avait pas 30 ans quand il a écrit le mythe de Sisyphe, il a dû être frappé par cette histoire et il en a fait un essai philosophique. Mais c'est presque une profession de foi, moi je vois ça comme ça. Et une sorte de... La façon dont vous l'interprétez, hein, je crois qu'on peut l'interpréter de différentes façons, ce mythe de Sisyphe, mais pour moi, ça devient un hymne à la vie. C'est bizarre, hein, quand même. Ouais, c'est paradoxal.
Tout à fait ça. Alors déjà, c'est une adaptation, mais en même temps, il faut savoir que tout ce qui est dans le texte est de Camus. C'est-à-dire, on dit adaptation parce que j'ai pas tout gardé. Si j'avais tout gardé, le spectacle durerait 8 heures. J'ai trouvé qu'une heure 5, c'était bien. Donc, tout est de Camus. Hein. Il n'y a rien de moi. C'est juste un montage à partir des moments que j'ai trouvé essentiels pour faire entendre la pensée de Camus. Et c'est vrai que c'est un appel à la vie, ne serait-ce que si on se rappelle de la dernière phrase, qui par moment est assez mal interprétée, puisque la dernière phrase c'est « il faut s'imaginer Sisyphe heureux ». Alors, on croit que c'est un appel à la résignation face à la difficulté, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui donne la force de vivre de notre vie? C'est de jamais renoncer à la possibilité du bonheur. C'est de toujours l'avoir en ligne de mire, en sachant que on l'atteindra peut-être jamais, que par moment il arrive, mais que, comme il le dit à un moment, le bonheur et l'absurde sont fils de la même terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonheur sans difficulté, et il n'y a pas de difficulté sans bonheur. Et voilà. Et l'idée de Camus, c'est de faire entendre ça, c'est qu'on est, que c'est la recherche du mieux aller, du mieux comprendre, qui est un moteur de la vie. Voilà.
Oui, oui, oui. Mais il faut. Mais on sent. Moi, je. Alors, évidemment, Camus, philosophe. Si on connaît pas trop l'histoire de Camus, enfin, je veux dire, on se dit bon, bah, c'est un truc de philosophie. Ça va être rébarbatif. Enfin, c'est vrai. Quoi, parfois, le vocabulaire de la philosophie, je suis désolée, mais ça, quand on n'est pas on est pas philosophe, c'est pas marqué sur notre front, quoi, qu'on est philosophe, c'est un peu rébarbatif. Hein, enfin, rébarbatif. C'est une langue aussi, enfin, c'est un mode de pensée. Enfin, je me dis aussi que, il faut le reconnaître, le monde des idées, il y a des gens qui aiment développer des idées, c'est quelque chose de spécial. Mais il y a aussi la réalité et il y a le sensible.
C'est-à-dire que, justement, quand Camus écrit cet ouvrage, Le mythe de Sisyphe, il dit à son ancien professeur, M. Grenier, qu'il est en train d'écrire un livre de philosophie sensible. Oui. Ce qui veut dire par là, c'est que la pensée chez Camus, c'est pas une philosophie de spéculation. Tout est ancré dans la vie quotidienne. Il va d'abord, au début du texte, relever les moments de notre vie quotidienne où l'absurdité de notre existence nous apparaît, comme par exemple dans la répétition des tâches de la vie quotidienne au travail, où les sentiments, on peut se sentir étranger au monde parce qu'on ne le comprend pas, même étranger à soi-même, étranger à la femme qu'on aime ou à l'homme qu'on aime, sont des moments où le sens du monde nous échappe. Et ce que Camus fait entendre, c'est que l'absurdité naît de la rencontre entre le désir de l'homme ou de la femme qui désire comprendre et le monde qui échappe à la compréhension. C'est ça l'absurde chez Camus, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas réservé aux intellectuels philosophes. Vous savez, moi j'ai joué, par exemple, j'ai joué à Fleury-Mérogis, j'ai joué devant qui sortaient des gens avec des associations, des gens qui étaient à la rue ou des gens qui sortaient de prison. J'ai joué dans des lycées, j'ai joué avec des adolescents, par exemple. Je suis allé dans des lycées je peux vous assurer que tout le monde est à l'écoute et entend très bien de quoi il s'agit. Que c'est pas un raisonnement intellectuel abstrait, mais que c'est un raisonnement intellectuel qui interroge notre rapport concret au monde.
Oui, voilà. C'est ça. Et moi, au premier abord, quand j'avais commencé à lire le livre, il y avait quand même un petit côté spéculatif au départ, je l'avais ressenti. Hein, il me semble que vous, dans le spectacle, justement, c'est vraiment, comment dire, c'est vrai, on a l'impression que ça sort des tripes, quelque part. C'est vraiment du senti.
Je crois que ça sort vraiment des tripes de Camus, en fait. Et oui. J'ai fait un très gros travail de recherche sur la vie de Camus, okay. De voir comment sa pensée s'inscrivait dans sa propre vie. Et quand j'avais pas la réponse, j'ai fait confiance à mon intuition ou à mon propre vécu, à mon propre rapport au monde, à l'incompréhension devant laquelle je me trouve face au monde. Et entre Camus, l'intuition et moi, j'essaye de donner du concret à la pensée que je porte, parce que on est au théâtre, c'est ça, c'est-à-dire que c'est pas une conférence, c'est vraiment un être sensible qui est traversé par des émotions, des questions, des sensations, des désirs, des regrets, des drames, et puis par la joie à la fin, parce qu'il y a aussi la joie de rechercher la pensée. Mm-hmm. C'est quelque chose qui rend joyeux d'essayer de comprendre. Et ça, c'est aussi dans le... Et il y a un dynamisme de la pensée. C'est aussi pour ça que le personnage que j'incarne sur scène, c'est quelqu'un qui marche beaucoup. Ça se voit pas trop à l'essayant parce que la scène est petite, mais ça m'est arrivé de jouer sur des scènes plus grandes. C'est en marchant qu'il trouve
le
personnage. Voilà.
Oui, oui, donc c'est physique aussi.
C'est physique, c'est bien physique. Sûr.
Oui, oui. Et c'est vrai que... on l'imagine pas parce que c'est un texte philosophique, c'est un petit bouquin, c'est un livre. Bon... c'est un livre, je pense qu'il faut être au pied d'un arbre pour le lire. Mais
ou adossé contre un rocher, ce serait
c'est
bien aussi.
Oui, mais c'est plus dur quand même.
C'est moins confortable.
Je préfère être adossé au pied d'un arbre. Ouais. Enfin bon, chacun sait. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que je trouve ça bien, c'est justement d'être arrivé à lui donner une dimension théâtrale. Mmh. Eh ben oui, parce que c'est du théâtre. Et puis on sait que Camus a beaucoup aimé le théâtre.
Ben Camus disait que la plus grande œuvre écrite, c'était l'œuvre dramatique, la pièce de théâtre. Il le dit. Il se prétend plus davantage auteur que philosophe. Il dit qu'il ne croit pas assez à l'esprit de système pour être philosophe. Et ce qui l'intéresse dans l'écriture dramatique, c'est de pouvoir faire entendre des points de vue différents à travers ses personnages, même si parfois il fait entendre, il y a un point de vue qu'il défend, comme par exemple dans Les Justes, où il pose la question de jusqu'où peut aller ma révolte, est-ce que par un acte de révolte, je peux aller jusqu'à tuer quelqu'un, qui est vraiment fondamental dans la pensée de Camus, cette question-là. Mais oui, c'est absolument un moment de théâtre, mais ça m'est apparu. Moi, ça faisait 30 ans que je voulais jouer un texte tout seul, et je voulais trouver un texte qui me traverse complètement, un texte dans lequel je pouvais me reconnaître complètement. Donc, c'est sûr que c'est un homme qui parle, quoi. C'est pas un personnage. Au moment quand j'entre, c'est-à-dire, pour moi, c'est même pas un spectacle, mm-hmm. ce que je propose. Pour moi, c'est une rencontre. Mm-hmm. C'est une rencontre où un individu, c'est moi, à travers la parole de Camus, offre à des gens la possibilité de se rencontrer eux-mêmes à partir de la parole qu'il leur est proposée. C'est ça que j'essaye de faire. Voilà.
Oui, oui, oui. Ben écoutez, on va vous entendre dire un petit extrait que vous avez proposé. Et puis, une illustration musicale, Les Immortels de Bachung.
Oui, Immortels de Bachung, oui.
Ouais.
Donc, je commence ou...
Oui, ben vous commencez. Vous m'avez proposé deux
oui,
extraits.
Oui.
On va commencer par le premier.
Ben, je crois que c'est mieux. Donc ça, c'est un extrait du début du spectacle quand Albert Camus pose la découverte de l'absurde. Hein. Voilà. Donc, je commence.
Ben oui.
Il arrive que les décors s'écroulent. Levé, tramway, 4 heures de bureau ou d'usine, repas, 4 heures de travail, tramway, repas, sommeil. Et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sur le même rythme. Cette route se suit aisément la plupart du temps. Un jour seulement, le pourquoi s'élève. Et tout commence dans cette lassitude teintée d'étonnement. Commence, ceci est important, car la lassitude est à la fin des actes d'une vie machinale, mais elle inaugure en même temps le mouvement de la conscience. Elle l'éveille et provoque la suite. La suite, c'est le retour inconscient dans la chaîne, ou c'est l'éveil définitif. En soi, la lassitude a quelque chose d'écœurant. Ici, je dois conclure qu'elle est bonne, car tout commence par la conscience, et rien ne vaut que par elle. Le simple souci est à l'origine de tout. Si je puis me permettre de commenter un petit peu ce que je viens de dire, donc je pense que c'est quelque chose dans ce texte-là où chacun peut reconnaître quelque chose de son expérience, le moment où on a l'impression que sa propre vie lui échappe, manque de sens et tout ça. Et c'est un moment absolument déterminant pour un individu de construire sa propre liberté. C'est-à-dire que Camus ne considère pas l'absurde comme la fin d'une expérience et comme la découverte d'un désastre. Il fait de l'absurde le moment où quelque chose de la liberté peut commencer. Si ma vie est absurde, par exemple, assez absurde pour aller jusqu'à la mort, alors je dois profiter de ce moment-là pour vivre le plus d'expériences possible. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans l'épitaphe du livre, il prend ça à Pindare et il dit « Ne recherche pas quelque chose, je cite de mémoire, donc ce ne sera pas parfait, « Oh, ne recherche pas la vie éternelle, mais épuise tous les possibles. » Puisque la vie est absurde, j'ai le droit de tout essayer. Évidemment, ça s'arrête à la limite de la vie de l'autre, hein, bien sûr. Mais oui. c'est un encouragement, c'est un appel à vivre. C'est exactement ce que vous disiez. Vivre, absolument. Oui. Ça a été assez mal interprété, souvent, je pense, le mythe de Sisyphe, parce que moi, j'y crois vraiment, j'y vois vraiment une ouverture vers le monde et pas un repli sur soi dans une mélancolie impossible à soigner.
Un malentendu sur le thème absurde.
Oui.
Parce que c'est très péjoratif en général, absurde. Quand on dit c'est absurde, on pourrait dire c'est surréaliste, ça n'a pas de sens. Mais voilà, si on sent. Mais chez Camus, absurde, c'est encore autre chose. La notion d'absurde.
L'absurde, c'est-à-dire que c'est vraiment la rencontre entre. Je disais que le monde est absurde et j'allais trop vite.
Oui.
C'est pas le monde qui est absurde. Ce qui est absurde, c'est la rencontre entre l'homme et le monde. L'absurde dépend autant que l'homme. De l'homme que du monde, il est pour l'instant leur seul lien, dit-il. C'est-à-dire, ce qui est absurde, c'est que l'homme ou la femme, hein, évidemment, cherche à comprendre et que la compréhension lui échappe. Et c'est ça qui l'appelle l'absurde, c'est l'appel de l'être humain à comprendre et le silence que lui oppose le monde, à ne pas répondre à la question qu'il lui pose, c'est qu'est-ce que je fais là, comment je dois faire et tout ça. C'est quelque chose qu'on invente à chaque instant, il n'y a jamais... D'ailleurs, c'est quelque chose que je sens dans le spectacle. Il faut absolument, quand j'arrive dans le spectacle, il faut absolument que je ne sache pas ce qui va se passer.
C'est pas mal, ça. Ça veut dire qu'il y a quand même l'inconnu, quelque part.
L'essai. L'essai, il parle d'un essai philosophique et c'est quelque chose, il le dit, que c'est pas simplement un essai parce que c'est le terme générique, non. C'est qu'il s'essaye à penser quelque chose, à faire état de sa pensée. Il n'y a aucune certitude. Mm-hmm. Vous voyez, et moi, quand je rentre sur scène, il y a des représentations, on est plus ou moins au point, quoi, plus ou moins. Et je pense que moins je sais ce qui va se passer, plus la représentation peut être intéressante, parce que je vais vraiment l'inventer au moment-là, à ce moment-là, avec les gens qui sont présents, inventer chaque seconde.
Oui, voilà. Mais j'imagine donc.
C'est un essai aussi.
J'imagine donc que vous êtes très sensible au public qui est devant vous.
Oui, bien sûr.
Bien sûr. J'imagine. C'est pas. Vous jouez. Enfin, vous jouez, oui. Enfin, c'est pas un jeu. Vous êtes devant un public.
En plus, on les voit, les gens.
Oui.
Et de la même façon que Camus s'adresse à un lecteur, moi, je m'adresse à chaque spectateur. Aussi. Je m'adresse au spectateur pendant toute la représentation, de la même façon que Camus s'adresse au lecteur. Et donc, je sens Le courant passe bien ou pas, je le sens, et donc j'essaye de voir comment je peux essayer que ça passe le mieux possible. Je sais ce qui fonctionne, c'est que je dois inventer chaque seconde. C'est-à-dire, c'est pour ça que vous dites que c'est physique. Ouais. C'est-à-dire que je dois vraiment être traversé de façon sensible par chaque seconde. Ça peut pas être le mardi comme c'était le lundi, c'est pas possible. Ça se passe vraiment là, maintenant.
Oui. Mais c'est intense aussi. Hein. Enfin, ouais. Je veux dire.
Mais la vie, c'est intense, sinon.
Oui, non, mais d'accord.
Si on ne rend pas la vie intense,
c'est
pas.
Ce que je voulais dire, c'est que ça doit être intense pour vous en tant qu'acteur, mais pour le spectateur, la spectatrice, le terme éprouvant est peut-être un peu trop fort.
Ah non, je vous en supplie.
Mais c'est que, quand même. Ça remue beaucoup.
Oui,
je ne dis pas que ça fasse souffrir, mais je veux dire, ça remue quand même.
Je l'espère.
On ne peut pas sortir de ce spectacle en... je veux dire, on reste quand même imprégné une fois, pendant au moins un quart d'heure, une demi-heure.
Oui, j'espère qu'on...
J'avoue que... Parce que le texte est fort quand même, faut le dire.
Le texte, il est magnifique, le texte. Enfin, vous voyez, j'en parle, là, ça fait 60 fois que je le joue, j'en parle, j'ai encore les chairs.
Le texte est fort, il y a même des moments où c'est poétique, il est poétique parfois.
Bien sûr.
Et puis, la façon dont vous l'interprétez... même si vous n'avez pas l'âge de Camille, vous n'avez pas 30 ans, peu importe, la façon dont vous mettez dans la pensée de Camus, moi j'ai trouvé qu'il y avait de la jeunesse.
Oui.
Il y avait vraiment.
Oui, il y a de la jeunesse, bien sûr.
De la jeunesse, donc une force de vie quand même. Quelque part, un désir de vivre. Hein, et on parle de révolte, mais justement, c'est ce qui est le contraire de la résignation.
C'est pour ça que je tenais à le dire, c'est-à-dire qu'il dit que la révolte donne son prix à la vie et lui restitue sa grandeur. C'est tout le contraire de la résignation qu'on prête à cette dernière phrase. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Il dit pas que Sisyphe est heureux. Il dit que soi-même, si on veut vouloir construire quelque chose, il faut s'imaginer que le bonheur est possible. Il dit même pas que le bonheur est possible. Il dit qu'il faut s'imaginer que le moteur, c'est ça.
Mm-hmm. Alors, on va peut-être écouter « Immortel » de Bachung. C'est le morceau que vous avez choisi.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous des faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçu, savais-tu qu'il durerait? Quand se mordant la bouche, le goût en haut revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. je ne t'ai jamais dit. Mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait, et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, immortel. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Vous avez choisi ce morceau?
D'abord parce que j'aime énormément Bachung. C'est, je suis profondément touché par cet artiste. Et je me suis beaucoup inspiré de chanteurs pour penser à ce spectacle, dans ce seul en scène. Je trouve que les grands chanteurs, les grands interprètes sont des grands modèles pour un acteur. Et ce qui me frappe dans le parcours de Bachung, quand on le regarde sur la durée, c'est que plus il vieillit, moins il en fait. Et il termine, puisqu'il, dans les dernières années de sa vie, il est malade. Quasiment, il fait tout le concert assis, avec quelques gestes, et il n'y a que la parole. Et ça me bouleverse.
Voilà. Ah oui, d'accord.
C'est pour ça que j'ai choisi ça. Et aussi parce que la mort est très importante pour la découverte de l'absurde chez Camus. Je disais que je m'étais basé sur sa vie, donc je vais raconter deux éléments de sa vie, si vous me permettez.
Oui, bien sûr.
Le premier, c'est que son père meurt, le père d'Albert Camus meurt quand il n'a pas un an. Il meurt dans les combats de la guerre 14-18. Et donc ça, évidemment, c'est la première fois qu'il va sur le continent. Hein. Camus est né en Algérie, ses parents vivaient en Algérie. Et il va sur le continent pour il est appelé et il meurt dans les premières semaines de combat. Et Camus étant né en 1913, il a jamais rencontré son père en dehors de ses 8-9 premiers mois de vie. Donc là, découvrir la violence de la guerre, la perte de son père, c'est vraiment une rencontre avec l'absurde d'une brutalité fondatrice. Et la deuxième chose, je m'excuse de parler de sujets un grave comme celui-là, parce que c'est sur la gravité que Camus construit le bonheur, justement, en réaction, par la révolte contre l'absurdité. Donc c'est pour ça, je voudrais pas qu'on croie que le spectacle est teinté uniquement de, même pas du tout, de détresse, il est surtout teinté d'un appétit de vivre. Et Camus apprend, à l'âge de 17 ans, qu'il est atteint de la tuberculose. Et lui, c'est un très grand sportif, il rêve d'être footballeur professionnel, il est gardien de but dans l'équipe d'Alger, et c'est l'époque, la tuberculose, où c'est une maladie qui est mortelle. Et moi, je crois que ces deux événements-là, il y en a d'autres, sont absolument fondateurs chez Albert Camus de sa pensée de l'absurde. Et enfin, pour en finir avec la raison qui m'a amené à pousser cette chanson, c'est que moi, ce que j'entends dans cette chanson, c'est que tant que nous ne sommes pas morts, nous sommes immortels. Et j'ai l'impression que c'est ça que Camus nous dit. Voilà.
Oui, d'accord. Effectivement, oui. Enfin, qu'on soit immortel ou pas. C'est en fait, immortel...
C'est-à-dire, on est chargé de vie.
Après tout, pourquoi... C'est pas la peine de penser à la mort, quoi. Enfin, ce qui nous touche, c'est la mort des autres. Mais la personne propre, finalement, puisque... il dit même qu'on ne fait pas l'expérience de la mort pour soi. Parce que quand on meurt, bon, bah, on ne sait pas. Mais c'est la mort des autres qui nous touche. Enfin,
oui, mais c'est aussi, je crois, mais ça, c'est ce que disent aussi des personnes qui vieillissent un peu, c'est que... Et c'est très fort chez Camus aussi, ne serait-ce que dans L'Étranger, par exemple. À la fin de L'Étranger, l'aumônier est parti, Meursault est seul dans sa cellule, il imagine qu'il va être condamné à mort, et il a, à ce moment-là, une envie, d'ailleurs c'est présent dans le spectacle, la divine disponibilité du condamné à mort devant qui s'ouvrent les portes de la prison. Il a à ce moment-là un renouveau de vivre. Mmh. Et je peux faire aussi un détour par Proust, par exemple, qui très nettement dans le dans son dernier, dans Le Temps retrouvé, fait entendre que c'est le narrateur fait entendre que c'est de savoir qu'il est atteint lui aussi de tuberculose, mmh. qui est une maladie mortelle, que c'est ce qui va devoir se consacrer à l'écriture. Et mmh. donc c'est un appel de vie à travers la découverte de la mort. Tant que je suis là, il faut que j'en profite au maximum. C'est vraiment au cœur de l'ouvrage.
Comme une urgence de vivre.
Oui. En fait. Ouais, voilà, il y a une urgence. Il oui. n'y a pas de deuxième chance, c'est ça que ça veut dire. Donc, il faut saisir la première.
Ah ouais. oui, c'est ça, oui. Ouais, ouais. Oui, oui, ouais. oui. Et puis, ce qui m'a frappé dans la biographie de Camus, c'est que il est mort prématurément. Oui. Je me demande même s'il n'avait pas une prémonition, hein, parce qu'il parle de mort prématurée dans le spectacle, on se demande. Hein. Mais... il avait 30 ans quand il a écrit le texte.
Il y a des choses qu'il écrit dans les jours qui précèdent qui sont très troublants par rapport à ça.
Ouais. 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 Il est mort d'un accident de voiture. Ouais. Et c'était pas lui qui conduisait. Donc, c'est pas un suicide. Il refuse le suicide.
Oui.
Alors, oui, ce qui m'a frappé, c'est que, justement, avant de mourir, il était en train d'écrire un texte posthume, je crois que ça s'appelle Le Premier Homme.
Oui, tout à fait.
Et... dans ce premier homme, c'est pas si facile à lire que ça, d'ailleurs, ce roman, parce que c'est pas lui qui l'a complètement fini, puisqu'il est mort avant, mais il part à la recherche de son père, hein, sur les traces de son père qu'il n'a pas connu, et je pense que cette recherche est assez fondamentale pour lui. Enfin, il me semble, quand on lit le livre...
Ça fait aucun doute, oui. Hein,
et donc, c'est quand même quelqu'un qui... par certains aspects, quand on le voit, il y a des interviews de Camus, on le voit, il est assez jovial quelque part. Enfin, c'est quelqu'un qui était amoureux de la vie, hein, qui amoureux des femmes, amoureux de la vie, enfin ceci. Mais quand on lit Le Premier Homme, on se rend compte, c'est quand même quelqu'un qui va chercher à la racine, qui cherche de comprendre, parce que partir à la recherche de ce père qu'il n'a pas connu, c'est pas un rapport avec son ego, hein, ça c'est autre chose, c'est autre chose. Et il s'intéresse à l'humain, quoi. C'est ça qui...
Oui, complètement.
C'est l'humain, c'est la racine de l'humain qui et le mythe de Sisyphe, en fait, il y a un mouvement de la pensée, effectivement, il y a un dynamisme, mais c'est peut-être que c'est pas tout de suite qu'on comprend comment. Comment et le pourquoi de cette pensée. Il faut, parce que pour moi, le sentiment de l'absurde, c'est vraiment d'être au plus bas. Et c'est parce qu'on est au plus bas qu'on peut remonter quelque part et qu'on peut retrouver du... Alors, on dit qu'il n'y a pas de sens, mais c'est là qu'on retrouve un petit peu de... On va trouver la racine. C'est à la racine que se trouve un petit peu de sens, quand même, qui donne du sens à la vie. Bon, je veux dire, il faut aller vraiment à la racine. Enfin, pour moi.
Je crois que c'est une... Là, vous avez dit beaucoup de choses, donc c'est difficile d'y répondre, mais...
mais c'est une question que je pose.
C'est une rencontre avec son propre gouffre qui permet d'essayer d'y poser les... Non pas des réponses, mais un chemin. Il n'y a pas de réponse, par exemple, dans le mythe de Sisyphe. Il y a un chemin. Il propose des personnages... Qui vont essayer de répondre à cette question de l'absurde. Il va y avoir Don Juan, mais j'ai pas gardé le personnage de Don Juan parce que c'était pas ce que je préférais dans le livre. Et puis c'est une époque telle que Camus voit Don Juan au moment où il écrit en 1942. C'est une façon qui est pas tellement recevable aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu garder ça. Mais la réponse à l'absurde, il l'aborde avec plusieurs types de personnages. Il y a d'abord l'acteur. l'acteur qui va multiplier les expériences à travers ses différents personnages et s'enrichir des expériences de chacun de ces personnages à travers... Cet enrichissement-là est un voyage dans le questionnement. Quand on est acteur, on se questionne beaucoup sur comment faire pour dire ce qu'on a à dire, quelle relation on a avec notre personnage, avec surtout notre partenaire. Une autre question qui est très importante chez Camus et que je voudrais aborder tout à l'heure, peut-être dans un passage, c'est l'engagement. C'est-à-dire, si le monde ne répond pas à la question que je lui pose, moi, au moins, je peux dire au monde ce que je souhaite et comment je le désire. Et puis, il y a aussi, évidemment, l'activité artistique, qui est une façon de poser ces questions à travers la peinture, la musique, l'écriture, de cette question que... Quel sens a ma vie et comment je peux faire pour lui donner un sens, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, quand même, on cherche un sens, quand même.
Mais il le dit, je crois que c'est la cinquième phrase de mon spectacle. Il dit « Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Comment y répondre ?» Et le « comment y répondre », c'est tout le spectacle qui suit, quoi. Qui aborde cette question.
Oui. Il parle de l'inhumanité. Il en parle aussi.
Oui, il parle à un moment, que l'inhumanité... même de la vie que mène l'homme, fait la grandeur de l'homme. L'homme est grand parce que la vie qu'il mène est inhumaine. Et voilà, c'est trop difficile, quoi. Voilà. Mais vous voyez comment il répond à la difficulté par le souci de la grandeur. Il y a toujours chez Camus cette opposition-là, vous en parliez un peu, entre la difficulté de vivre et la beauté. On est toujours, ce qu'on a appelé la pensée de midi, on est toujours, on voyage entre ces deux termes-là, toujours chez Camus.
On va écouter donc l'extrait sur l'engagement.
D'accord. Tout le monde est mobilisé. Voilà peut-être ce que j'ai senti le plus profondément. Et conscient que je ne puis me séparer de mon temps, j'ai décidé de faire corps avec lui. Je ne fais tant cas de l'individu que parce qu'il m'apparaît dérisoire et humilié. Entre l'histoire et l'éternel, j'ai choisi l'histoire. Même humiliée, la chair est ma seule certitude. Je ne puis vivre que d'elle. La créature est ma patrie. Voilà pourquoi j'ai choisi cet effort absurde et sans portée. Voilà pourquoi je suis du côté de la lutte. Jusqu'ici, la grandeur d'un conquérant était géographique. Elle se mesurait à l'étendue des territoires vaincus. La grandeur a changé de camp. Elle est dans la protestation et le sacrifice sans avenir. Ce n'est point par goût de la défaite. La victoire serait souhaitable, mais il n'y a qu'une victoire, et elle est éternelle. C'est celle que je n'aurai jamais. Voilà où je bute, et je m'accroche. Une révolution s'accomplit toujours contre les dieux. C'est une revendication de l'homme contre son destin. La revendication du pauvre n'est qu'un prétexte. J'exalte l'homme devant ce qui l'écrase. Oui, l'homme est sa propre fin, il est sa seule fin. S'il veut être quelque chose, c'est dans cette vie. Ben, on entend là, dans ce passage-là, la force de vie qu'il y a, qui traverse le texte. C'est beaucoup en raison de ce passage-là que j'ai voulu monter ce spectacle, parce que il me semble que c'est un passage qui non seulement est un engagement de l'homme dans le monde, ou de la femme dans le monde, hein, mais aussi un engagement de chacun face à lui-même. C'est-à-dire... Tu es mobilisé dans ta propre vie. Ton destin t'appartient, tu dois le construire. C'est ta force et d'une certaine façon, c'est ta seule joie possible. C'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce... Ouais. J'ai voulu monter ce texte.
Ouais. Oui, d'autant plus qu'effectivement, c'est un homme qui a été confronté à quand même des situations difficiles, particulières. Et il a été élevé par une grand-mère qui n'était pas très, très... très gentil, hein, qu'il battait, hein, quand même. Mmh. Et puis, sa mère était muette. Mmh. Hein, ne parlait pas.
Quasiment muette, oui.
Quasiment muette, analphabète. Enfin, il a quand même vécu dans un milieu pas tellement favorable, finalement, pour pauvre, en plus. Mmh, mmh, enfin, c'est parce qu'il a rencontré un instituteur qui a vu qu'il avait des dons. Mais ça veut dire qu'il a toujours été dans le combat, quelque part. Je pense, hein, même enfant, il était conscient de ce qu'il, de son environnement, un peu de misère, qu'il était avec des Algériens qui étaient colonisés. Enfin, il a jamais été dans des situations tellement faciles. Après, il a connu la tuberculose, la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, bref. Et puis la guerre d'Algérie. Enfin, il a jamais été
La guerre d'Algérie qui a été un drame pour lui, vraiment, parce qu'il était... Il était déchiré entre l'amour qu'il avait pour l'Algérie, son pays natal, et l'amour qu'il avait pour sa mère qui vivait toujours là-bas, et lui qui était en France. Et sur ce point-là, c'était un vrai déchirement pour lui, ce qui était en train de se passer, et qu'il avait du mal à accepter, quoi.
Oui, oui, oui. En plus de ça, il avait une épouse qui était dépressive aussi. Mmh, enfin bref, il n'a pas eu une vie. Et finalement, il a eu le prix Nobel, d'accord. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'il n'a pas eu une vie si facile que ça, en fait. Alors, je ne sais pas s'il était anxieux, angoissé, mais quelque part, il a eu une vie un peu tourmentée quand même.
Je crois qu'il y a peut-être chez lui quelque chose qui échappe à l'entendement. C'est-à-dire que sa force de vie résiste à toute l'adversité. Et peut-être qu'à la fois elle s'en nourrit, je ne sais pas. Alors ça fait partie des choses que j'ai essayé de comprendre. Comment il fait pour garder ce que tout le monde y reconnaît, c'est-à-dire une force de pensée, une agilité de la pensée, une force de séduction qui est permanente, une soif de vie. Et ça serait rapetisser que d'essayer de l'expliquer psychologiquement. Simplement, il est animé d'une force de vie qui le traverse et qui le porte, quoi.
Oui. Tout à fait.
Quand il écrit, c'est vrai que quand il écrit le mythe de Sisyphe, il n'a pas 30 ans.
Ben voilà, mais ça se sent.
Le texte est d'une qualité.
Mais oui, de ça n'empêche pas, on peut être jeune.
Oui, c'est ça.
Oui, ça n'empêche pas.
Mais c'est génial, quoi.
Oui. Oui,
comme on parle de théâtre, comme chez Tchekhov qui écrit Platonov, il a à peine 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont chargés d'un génie voilà, qui est leur affaire. Bah, qui est leur histoire et pas la nôtre, en fait.
Oui, oui, oui. Qu'est-ce que je voulais dire, on arrive
je ne sais pas.
Presque à la fin. Ouais. La famille de Camus, elle est venue voir le spectacle.
Oui, bien sûr. Il fallait qu'elle accepte, hein, parce que Camus n'est pas dans le domaine public. Mm-hmm. En France, il faut 70 ans pour entrer dans le public, et il est mort en 60. Mm-hmm. Donc, il fallait l'accord de la famille, qui tenait absolument à ce que... Il n'y a pas de mot de ma part, que tout soit absolument de Camus. C'est-à-dire que souvent, dans les choix de la famille, alors ils acceptent des adaptations très très libres, où soit il y a une exigence. Là, sur le mythe de Sisyphe, c'était une exigence pour eux que tout soit vraiment de Camus. Et oui, là, je l'ai même joué à Lourmarin. C'est-à-dire que la petite fille de Camus est venue me voir quand je l'ai créé au Lavoir moderne parisien. Et je lui ai dit que ça me ferait plaisir de le jouer à Lourmarin devant sa maman. Mmh. Donc je suis allé le jouer là-bas, à Lourmarin, qui est le village où Camus avait sa maison. Et il y avait une très belle salle, parce qu'il y a là-bas une association qui soutient la mémoire de Camus. Donc ils sont tous venus. J'ai joué gratuitement. J'ai été reçu pendant une semaine là-bas avec une très profonde amitié de la part de tout le monde. Et oui, voilà. Donc ils soutiennent le spectacle. Elle m'a envoyé un petit mot après pour... pour
tant
soutenir
mieux,
le spectacle.
Tant mieux. C'est Catherine Camus, je crois.
C'est là. Catherine, oui.
Ouais, d'accord. Ouais.
Elle m'a reçue dans la maison là-bas, le
Marin.
C'est
ça. Oui.
Dans la chambre de Camus.
Ah oui, ça doit être émouvant quand même.
Oui, alors c'était. En fait, ce dont je me suis rendu compte dans cette visite-là, c'est que les murs n'ont pas de mémoire, contrairement à ce que. Pour ceux qui n'y ont pas vécu.
Ah, d'accord. C'est-à-dire
que moi, cette maison-là, je n'y avais pas vécu. Donc, j'étais presque un peu déçu. Mais par contre, ce qui m'a complètement traversé, c'est la rencontre avec Catherine Camus, qui m'a parlé comme si elle me connaissait, comme si j'étais un ami de toujours. Et là, je me suis dit, ça, elle est vraiment l'incarnation vivante de l'œuvre de son père, parce que la fraternité, c'est fondamental dans l'œuvre de Camus. Elle m'a reçu avec vraiment une énorme gentillesse. Et ça a changé la façon dont je porte ce spectacle. C'est-à-dire que depuis ce jour-là, au moment... J'avais plus ou moins pressenti avant, mais je sais que depuis ce jour-là, au moment où je rentre dans la salle de spectacle, je rentre donc par la même entrée que le public, je peux le dire, c'est parce que pour moi, celui qui parle là est quelqu'un du public, est un être humain semblable aux êtres humains qui sont venus l'écouter. Et depuis ma rencontre avec Catherine Camus, je sais que je veille pendant ce spectacle à me rappeler qu'en fait, je m'adresse à chacune des personnes qui est présente dans la salle. Vraiment. Ça s'adresse à chacun individuellement. Il n'y a pas une personne que je ne regarde pas pendant le spectacle.
Ah bon, d'accord.
À la fin du spectacle, j'ai vu tout le monde. Et même au salut, j'ai vu tout le monde. Je crois que c'est dans l'œuvre de Camus fondamental, le sentiment de fraternité.
D'accord.
Ouais, c'est quelque chose qui vient peut-être aussi un peu de l'Algérie, quoi. Quelque chose du soleil, de l'être ensemble, de voilà.
D'accord. Ah ouais. En tout cas, c'est un spectacle. Il y a une formule qui dit dont on ne sort pas indemne. C'est pas ça, mais je trouve que on en ressort enrichi. Enfin.
Ça me touche beaucoup. Vous disiez ça. Ouais,
ben merci. oui. Et. C'est pas du tout, on pourrait s'imaginer, bon, c'est de la philosophie, c'est rébarbatif, c'est un seul en scène, etc. Mais non, c'est vivant aussi. Vous réussissez à rendre ce spectacle, c'est vivant.
Ah oui, bien sûr, c'est mon objet pendant tout le spectacle, hein, qu'on soit dans la vie, quoi. Vraiment, ouais. Vraiment. C'est pas une conférence du tout, pas du tout une conférence de philosophie. Ça, j'y veille vraiment. Hein,
ouais.
C'est une rencontre, je dis, c'est une rencontre avec chacun. Et moi avec chacun, je l'espère de chacun avec la pensée de Camus à travers moi, et j'espère de chacun avec lui-même pendant quelques minutes. Voilà.
Bah oui, tout à fait.
J'ai très envie d'aller le voir.
Ah, il faut aller le voir. Hein. Merci. Si vous n'allez pas à Avignon, c'est encore. Alors, on va dire jusqu'à quand ?
On joue. Je joue à l'Essaillon encore lundi, mardi. Lundi, mardi, 21h de la semaine prochaine. Le jeudi, c'est à 19h. Et le 30 juin, qui est un lundi, je jouerai à 21h. Mais tout ça est sur le site de l'Essaillon.
D'accord.
Très bien.
Et ensuite,
après, en Avignon, là, je le joue à partir du 5 juillet jusqu'au 26, au Théâtre Transversal, à 12h10. Et le spectacle dure 1h05. Il est plutôt recommandé aux enfants à partir de 15 ans. Voilà, à 8 ans, je pense que c'est pas possible. Mais à partir de 15, on peut, à partir du moment où on est dans le questionnement du pourquoi, ça devient. Bon, à 8 ans aussi, on l'est déjà, mais la façon dont Camus apporte la question, ça demande une petite maturité quand même.
D'accord. Ouais. Ben, je vous remercie, Pierre Marteau.
Mais Trane, c'est moi qui vous remercie.
Et on redit parole de En pied d'immeuble, ou ça, c'est la dernière fois.
Oui, bien sûr. Alors, parole de femme en pied d'immeuble, qui cultive aussi l'absurde via le travail initial de clown.
Je m'excuse, je coupe la parole. J'ai du temps pour dire quelque chose. À quel point c'est important des spectacles comme ça.
Oui. Allez-y.
Très important.
Oui.
La France est traversée d'origines diverses qui la nourrissent, l'enrichissent et l'embellissent.
Mmh.
Et tout ce qui favorise la rencontre entre des arrivants, même de générations précédentes, et des gens qui sont dans la place, c'est essentiel. Mmh. La vie, elle est là aussi. Mmh. Camus venait d'Algérie.
Mmh.
Bon, voilà.
Ben oui, c'est un immigré aussi.
Voilà.
Donc, c'est pour dire que le spectacle Parole de femme en pied d'immeuble, c'est un spectacle qu'il faut aller voir.
Oui, c'est pour
aussi.
C'est pour dire que nous invitons forcément Pierre Marteau. invité Pierre Marteau à découvrir Parole de femme en pied d'immeuble. Donc, le vendredi 4 juillet à 18h et le samedi 5 juillet à 16h. Et comme
à la Cité du Refuge.
À la Cité du Refuge, 12 rue Cantagrel, métro, bibliothèque François Mitterrand. Nous sommes aussi dans l'absurde via notre côté travail en amont du clown.
Mais dans la vie aussi.
Et dans la vie aussi. Et l'absurde, en fait, voilà, pour nous aussi, c'est une façon d'inventer notre vie. Voilà. Donc on reconnaît.
D'accord.
Un peu,
et je crois que c'est gratuit aussi.
Oui, alors profitez-en. Hein. C'est gratuit sur ces deux journées-là. Viens des nombreux.
D'accord. Merci, Eliane. Merci Malika. Et merci Pierre.
Merci.
Et merci Anne.
Merci.
Et tout de suite sur l'antenne de Radio Libertaire, c'est Bulle Noire. Et dans un premier temps, on saura si la vinaigrette va mal tourner.